VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 17h à Kigali. Bienvenue à notre journal. Israël, le président Barack Obama et des leaders du monde entier ont pris part ce vendredi aux obsèques de l'ancien leader israélien Shimon Peres, décédé mercredi des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 93 ans. Les précisions de Lionel Gaïma.
À la tête d'une délégation de 32 personnalités américaines, y compris l'ancien président Bill Clinton et le secrétaire d'État John Kerry, Barack Obama a rappelé le constant engagement de Shimon Peres pour la paix. La Knesset, les chefs d'État et les invités du monde entier, y compris le président Abbas, dont la présence ici témoigne de la quête inachevée de paix. Au peuple d'Israël, je ne pouvais pas être plus honoré de venir à Jérusalem, dire adieu à mon ami Shimon Peres, qui nous a montré que la justice et l'espoir sont au cœur du sionisme, a déclaré le chef de l'exécutif américain. Par sa présence à ses obsèques, le président palestinien Mahmoud Abbas espère envoyer un message fort à la société israélienne que les Palestiniens sont pour la paix et apprécient les efforts d'hommes de paix comme Shimon Peres, a fait savoir de son côté un responsable palestinien. Le dirigeant palestinien et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ont échangé une poignée de main à ses obsèques. Un des pères fondateurs d'Israël, Shimon Peres, a pratiquement occupé tous les postes politiques au cours de sa longue carrière, siégeant pendant 48 ans à la Knesset, le Parlement israélien.
Afrique maintenant, conflit en Somalie. La région autoproclamée semi-autonome du Galmudug en Somalie accuse la région rivale du Puntland d'avoir dupé les forces américaines pour qu'elle lance une frappe aérienne dans laquelle 13 de ses soldats ont été tués et 7 blessés. Le point avec Nani Talani.
Les États-Unis ont confirmé qu'une frappe avait eu lieu mercredi près d'une ville au nord de la capitale somalienne Mogadiscio et à cheval sur la frontière entre le Galmudug et le Puntland, deux régions autoproclamées semi-autonomes et rivales. Selon un communiqué du commandement militaire américain pour l'Afrique, les Somaliens ont mené une opération de contre-terrorisme pour démanteler un réseau Shebab chargé de placer des engins explosifs improvisés. Puis, un groupe de combattants Shebab a lancé une attaque, menaçant la sécurité des troupes somaliennes et de leurs conseillers américains. Les forces somaliennes ont répliqué en tirant pour se défendre. De leur côté, les États-Unis ont mené une frappe d'autodéfense pour neutraliser la menace, tuant 9 combattants ennemis. Nous suspectons l'État du Puntland de Somalie d'avoir délibérément fourni de fausses informations pour s'assurer que l'attaque ait lieu dans son propre intérêt, a déclaré hier le ministre de l'Information du Galmudug, Mohamed Adan Osman. Il n'était pas possible de déterminer si la frappe en question était simplement due à une identification erronée des cibles ou est liée à l'hostilité qui oppose les deux régions voisines.
Au Gabon, l'opposant Jean Ping demande à la communauté internationale de prendre des sanctions ciblées contre les responsables de ce qu'il appelle un coup d'État militaro-électoral. Le chef de file de l'opposition gabonaise a réaffirmé qu'il ne reconnaîtrait pas le pouvoir du président Ali Bongo Ondimba, officiellement réélu pour un second septennat. Eric Manirakiza.
Jean Ping, hier, a répété qu'il est le président élu. Il a appelé la communauté internationale à prendre des sanctions ciblées contre ceux qui ont perpétré un coup d'État militaro-électoral, notamment à travers le gel de leurs avoirs à l'étranger et des interdictions de voyager. Il a appelé à observer le 6 octobre une journée nationale de recueillement pour nos morts, tués par ce pouvoir, durant les violences qui avaient suivi l'annonce des résultats provisoires en faveur du président sortant le 31 août. Il a répondu clairement qu'il n'ira à aucun dialogue sous l'égide d'un imposteur en référence à la main tendue d'Ali Bongo. Le nouveau premier ministre Emmanuel Issoze Ngonde a annoncé hier la formation de son gouvernement d'ouverture pour dimanche. Il a été nommé la veille au lendemain de la prestation de serment du président Ali Bongo Ondimba, 57 ans, pour un second mandat de 7 ans.
Crise burundaise, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a approuvé ce vendredi à Genève la création d'une commission chargée d'enquêter sans délai sur les violations des droits de l'homme commises au Burundi depuis avril 2015. Une résolution en ce sens proposée par la Slovaquie au nom de l'Union européenne a été approuvée par 19 voix pour, 7 contre et 21 abstentions. La durée du mandat de la commission est d'un an. Elle devra présenter ses premières observations lors de la 34e session du Conseil en mars 2017.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Niger, 14 soldats nigériens et 123 djihadistes du groupe islamiste nigérien Boko Haram ont été tués lors d'une vaste opération de ratissage menée depuis début juillet par les militaires du Niger et du Tchad dans la région de Difa, dans le sud-est du pays. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'armée nigérienne. Deux terroristes ont également été capturés, une importante quantité d'armes et de munitions récupérées auprès des insurgés nigérians, a déclaré à la télévision d'État le porte-parole du ministère nigérien de la Défense, le colonel Mustapha Ledru. Selon le porte-parole, les djihadistes tués sont des éléments qui ont réussi à s'infiltrer dans la région de Difa à partir du nord-est du Nigeria, fief de Boko Haram. Le colonel Mustapha Ledru a souligné que les opérations conjointes Tchad-Niger se sont déroulées simultanément avec une autre offensive engagée par le Niger et le Nigeria et qui a permis de reprendre à Boko Haram les localités stratégiques nigérianes de Damasak, Abadan et Gachagar. Jeudi matin, la localité de Malam Fatori, autre bastion de Boko Haram très proche de la ville nigérienne de Bosso, a également été libérée, a ajouté le colonel Ledru. Depuis février 2015, Boko Haram mène des attaques autour de Difa, région frontalière du nord-est du Nigeria. Au Burkina Faso, le président Roch-Marc Christian Kabore a finalement installé dans leurs fonctions jeudi les membres de la commission constitutionnelle nommée il y a 3 mois. Les résultats de leurs travaux qui vont permettre de passer à la 5e République sont attendus dans 60 jours. Le point avec Chris Ogon Zougmore, le président du mouvement burkinabé des droits de l'homme.
L'élément essentiel sur lequel il faudra veiller et mettre l'accent, c'est celui de la séparation effective des pouvoirs, notamment du pouvoir judiciaire. Parce que comme vous le savez, dans tout état de droit moderne qui se respecte, la justice constitue le régulateur des tensions sociales. Lorsque la justice ne fonctionne pas, toutes les voies sont ouvertes à toutes les dérives possibles.
Chris Ogon Zougmore, président du mouvement burkinabé des droits de l'homme. Et puis au Ghana, le président ghanéen John Dramani Mahama a accusé d'avoir reçu une voiture en contrepartie d'un contrat lucratif, maintenant exonéré de tout soupçon. Il a reçu la nouvelle hier, jeudi, le jour même où il a présenté sa candidature officielle pour l'élection présidentielle de décembre. John Lyndon.
La Commission des droits de l'homme et de la justice administrative a rapporté que les suspicions de conflit d'intérêts contre M. Mahama n'étaient pas prouvées. Une enquête plus poussée n'est donc pas justifiée. Le gouvernement n'a jamais nié avoir reçu un 4x4 de la part d'une entreprise de construction du Burkina Faso qui avait gagné l'appel d'offres pour reconstruire le mur d'enceinte de l'ambassade du pays à Ouagadougou. Mais il nie que ce cadeau ait été un moyen de sécuriser un autre contrat pour la construction d'une route dans la région ghanéenne de la Volta et affirme que le véhicule a rejoint le parc automobile du gouvernement. Le scandale, révélé par un journaliste d'investigation anonyme, avait déclenché une grande vague d'indignation dans le pays. M. Mahama, qui représente le parti du Congrès national démocratique, est candidat à sa propre succession et a soumis sa candidature hier à la commission électorale. L'élection présidentielle aura lieu le 7 décembre prochain.
Guerre en Syrie maintenant. Les États-Unis et la Russie sont au bord de la rupture sur le conflit syrien. Washington menace d'arrêter sa coopération diplomatique avec Moscou et le Kremlin réplique n'avoir aucune intention d'interrompre la guerre malgré la catastrophe humanitaire à Alep. Jean-Roger Bion.
Le président Barack Obama et la chancelière allemande Angela Merkel ont condamné jeudi avec force, je cite, les raids aériens barbares des Russes et du régime syrien sur l'est d'Alep, une zone où habitent des centaines de milliers de civils, dont la moitié sont des enfants. Lors d'une conversation téléphonique rapportée par la Maison-Blanche, les deux dirigeants alliés ont convenu que Moscou et Damas portaient une responsabilité particulière pour mettre fin au combat en Syrie et permettre l'acheminement de l'aide humanitaire de l'ONU aux zones assiégées et difficiles d'accès dans le pays. Auparavant, le secrétaire d'État John Kerry avait une nouvelle fois menacé la Russie de geler leur dialogue diplomatique si le carnage d'Alep ne prenait pas fin. À Moscou, la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a immédiatement répliqué, je cite, que le meilleur cadeau aux terroristes sera le refus de Washington de coopérer avec la Russie pour un règlement du conflit en Syrie.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.